La rencontre spirituelle aujourd'hui, une émission assez particulière, j'en ai fait quelques fois, et c'est un peu audacieux, ce sont des martyrs. Des martyrs en grand nombre, dont le courage devrait nous stimuler et nous servir d'exemple. Qu'on soit jeune ou vieux, il y a des modèles là pour nous tous. Il y a deux évêques espagnols dominicains et leurs 23 compagnons martyrs en 1860, martyrs au Tonkin dans ce qu'on appelle l'Indochine. Il en a été question aujourd'hui aux nouvelles. On a dit que les chrétiens d'Indochine ont beaucoup de difficultés à obtenir l'autorisation de quitter, ne serait-ce que pour faire un voyage à Rome, pour aller voir le pape et les autorités de l'Église et les autres membres qui pourraient les influencer, les aider, les secourir. Il y aura aussi un jésuite et ses 55 compagnons extraordinaires, des Chinois, martyrs en 1900. Et tout ce monde-là est béatifié. Ça fait beaucoup de béatification. Environ 80. Ce sont des exemples phénoménaux. Il y a près de 50 ans, le 29 avril 1951, le pape Pie XII béatifie des 25 martyrs groupés parce qu'ils appartiennent tous au vicariat de Tonkin. Ce sont les deux évêques espagnols dont je vous ai parlé, les deux dominicains, puis leurs 23 compagnons. Ils ont péri pendant la même persécution. Il s'agit des bienheureux Joseph Marie Diaz Sanjurjo, dominicain, et Melchior Garcia San Pedro, dominicain encore, évêque. Et les 23 chrétiens catholiques, martyrs entre 1857 et 1862. Je crois que nous sommes si faibles dans notre foi que ça vaut la peine de passer une petite heure en compagnie de ces gens extraordinaires. En 1847, il y avait eu l'accession au trône du Tonkin, c'est la partie nord du Vietnam, n'est-ce pas? De Thu Duc. Ça dit quelque chose à tous les Vietnamiens, ça. Son accession avait été saluée avec joie par les missionnaires qui le croyaient favorable au catholicisme. La révolte de son frère aîné, qui a essayé de le renverser, modifie ses dispositions. Alors il se rallie à l'opinion publique, qui accuse de complicité les catholiques dans cette révolution de son frère aîné. Il porte des décrets de persécution. Et durant quelques années, ce Thu Duc, T-U-D-U-C, se montre pourtant relativement tolérant. Il craint les réactions de Napoléon III à l'époque. Nous sommes en 1857-57. Et malheureusement, les maladresses des Français sont interprétés par Thu Duc comme des preuves d'impuissance. Alors, en 1857, il déclenche là une persécution plus violente que celle que le pays a jamais connue. Au Tonkin central, au centre un peu plus vers le sud du Tonkin, mais on n'est pas encore dans l'Indochine du Sud, là, le Vietnam du Sud. La première victime, c'est le vicaire apostolique, Mgr Joseph Diaz Sanjurjo. Sanjurjo, c'est S-A-N-J-U-R-J-O. C'est le nom de sa mère. Diaz est le nom de son père. Il était né en 1818 près de Lugo, en Espagne. Après ses études au séminaire diocésain et à l'université de Compostelle, où est grand lieu de pèlerinage, Saint-Jacques de Compostelle, que vous connaissez tous, il entre dans l'ordre des Dominicains, qu'on appelle souvent les frères prêcheurs, où il espère réaliser plus facilement ses aspirations de vie missionnaire. Bon, il est ordonné prêtre à 26 ans, un 23 mars 1844. Il est encore jeune. Et aussitôt après, il s'embarque déjà pour Manille, aux Philippines, avec 5 autres religieux, puis il reste aux Philippines quelques mois, pendant lesquels il est professeur de lettres à l'université de Manille. Et le jour de Pâques 1845, il arrive au Tonkin, donc dans le nord de l'Indochine. Ou du Vietnam, si vous voulez, Vietnam Nord. En 1849, déjà, en l'espace de 4 ans, il est nommé coadjuteur du vicaire apostolique du Tonkin central, Monseigneur Marty, M-A-R-T-I. Il n'a que 31 ans. Il lui succède en 1852 à 34 ans. Alors, il fixe sa résidence à Bouichou. La menace de persécution se précise. Vous allez voir ce qui va se passer, c'est terrible. Je vous préviens, c'est terrible. Vous faites mieux de vous asseoir si vous êtes occupé à faire quelque chose. Quand en 1857, un nouveau mandarin arrive à Bouichou, il veut montrer son zèle et toucher la récompense promise en dénonçant l'évêque. Alors des soldats cernent le village, se saisissent de lui, lui arrachent sa croix pectorale et son anneau et le jettent en prison. Il a la tête tranchée 2 mois plus tard. Le 20 juillet 1857, à 39 ans seulement. C'est son coadjuteur, Monseigneur Melchior Garcia San Pedro, béatifié lui aussi, qui lui succède. Monseigneur Garcia est né dans les Asturies, toujours en Espagne, le 29 avril 1821. Il est bachelier en théologie, puis il est substitut pour l'enseignement de la logique en philosophie. Il renonce à sa charge, malgré l'opposition de ses parents, pour entrer au mois d'août 1845 au noviciat des Dominicains d'Ocaña. Il est ordonné prêtre à Madrid, puis il se rend à Manille, aux Philippines, en 1848, puis il demande d'être envoyé au Tonkin, lui aussi, où il arrive en février 1849, à 27 ans seulement. Ces jeunes étaient pleins de courage. Et bientôt, il est sacré évêque, le 1er septembre 1855, soit 6 ans plus tard, alors que les édits persécuteurs se font de plus en plus redoutables. Alors, il est donc évêque à 34 ans. Et puis, comme l'autre, il est arrêté au début de juillet 1858. Ça prend pas de temps. 3 ans. 20 jours plus tard, le 28 juillet 1858, il est tiré de sa prison et amené, chargé de grosses chaînes au lieu du supplice. Il est jeté à terre, il est attaché solidement à des poteaux, nu, un évêque, nu, et écartelé. Puis les bourreaux lui coupent les mains et les jambes. Et pendant ce temps-là, croyez-le ou non, les témoins l'ont rapporté, il invoque sans s'arrêter le nom de Jésus. Il n'a plus de mains, il n'a plus de jambes. Et il répète Jésus, Jésus, béni soit le nom de Jésus. Finalement, on lui tranche la tête. On va jusqu'à lui arracher les entrailles et on jette dans une fosse ce qui reste de son pauvre corps. Qu'on cherche à faire piétiner par des éléphants, écoutez bien ça. On cherche à faire piétiner les restes de son pauvre corps par des éléphants, mais les animaux refusent si obstinément que les témoins sont terrorisés. Alors ils préviennent l'empereur, Tudouk, qui ordonne de les tuer à coups de canon sur le lieu même de l'exécution. Le bienheureux Monseigneur Garcia, dominicain espagnol, n'avait que 37 ans. Quelques mois plus tard, le 5 novembre 1858, on exécute un prêtre indigène. Entrée chez les Dominicains, les frères prêcheurs. Dominique, il a pris le beau nom de Dominique. Mau, M-A-U. Il est très pieux. C'est un homme qui... Ce prêtre porte son rosaire ostensiblement. Et il tient à mourir les mains jointes, comme s'il participait à une cérémonie sacrée. D'autre part, trois hommes importants et riches de la province de Nam Dinh, mariés et pères de famille, Dominique An Kham, chef de son village, et son fils Luc Kai Tin et Joseph Kai Ta, sont dénoncés comme chrétiens, sont arrêtés, leurs maisons sont pillées, brûlées, et après 4 mois de prison, on vient leur annoncer qu'ils sont condamnés à mort pour rébellion. Cette rébellion, c'est quoi? Imaginez, c'est tout simplement parce qu'ils ont refusé de marcher sur un crucifix, sur une croix. Ils sont exécutés le 13 janvier 1859. Puis voici maintenant un prêtre. Prie alors qu'il sort de sa cachette pour aller accomplir son ministère à Ha Lang. Dominique Kham, son nom. Un autre Dominique. Dominique Kham, prêtre indigène et tertiaire dominicain, il est arrêté et emprisonné, et le 11 mars 1859, donc l'année suivante, il a la tête tranchée. Il est coupé en morceaux, comme on fait aujourd'hui avec les enfants avant leur naissance, surtout si l'échographie a décidé qu'ils ne sont pas intéressants puisqu'ils sont handicapés. Un autre prêtre indigène, Thomas Kwong, est reconnu alors qu'il essaie de franchir le pont de Trangsa sans marcher sur la croix. Croix qui est placée là pour être foulée par les pieds des passants. Alors il est arrêté, ce prêtre indigène Thomas Kwong. Et comme il refuse de profaner un crucifix, il est décapité à la hache le 30 janvier 1860, près d'un an après l'abbé Kham. Un prêtre dominicain, cette fois-ci, Joseph Tuan, est trahi par un pauvre apostat qui a quitté l'Église. Il est emprisonné, il est aussi décapité à la hache en avril 1861, donc l'année suivante. Au mois d'août 1861, l'empereur Tuduk lance un nouveau décret qui condamne les chrétiens à être marqués sur les joues, et à être dispersés dans les villages païens, puis à perdre tous leurs biens, deviennent des pauvres de Jésus-Christ. Ça, c'est sans préjudice de sanctions plus graves, puisque les gouverneurs de district peuvent appliquer la peine de mort comme ils le veulent. Alors le Tonkin central se trouve aux mains d'un tyran sanguinaire. Il est particulièrement éprouvé en 1862. C'est terrible. Père de famille et cultivateur Joseph Tuan se signale par sa piété. Alors les bourreaux l'invitent à marcher sur une croix et il s'agenouille devant elle en s'écriant « Tu es ma force » en parlant au Christ, « Tu es ma force ». Alors il est supplicié. Le 7 janvier 1862, à l'âge de 36 ans seulement, quel courage! Quel admirable courage! Je continuerai tantôt, je crois que c'est suffisant. Ça m'émeut de penser que nous avons si peu de foi comparée à ces Vietnamiens. Nous passons maintenant à Laurent Ngong. Je donne bien les prénoms parce qu'il y a des gens qui s'appellent Laurent, qui s'appellent Dominique, ou Joseph, ou Luc. Ce seraient des modèles à imiter, n'est-ce pas? Laurent Ngong a été emprisonné une première fois pour avoir refusé de piétiner un crucifix. Et alors relâché, il est repris et emprisonné à Anxa. Il ranime le courage des autres détenus. Alors le juge essaie de le faire fléchir. Il lui dit, « Mais tu es encore jeune, pourquoi veux-tu mourir? Piétine donc la croix, et tu pourras retourner dans ta famille. » Alors Laurent Ngong répond: je professe la religion du Seigneur du ciel et de la terre, et je ne le renierai jamais en piétinant la croix. Si vous me laissez vivre, c'est bien. Autrement, c'est avec plaisir que je mourrai. C'est avec plaisir que je mourrai, dit Laurent Ngong. Et laissant à sa femme et à ses enfants, c'est un père de famille, hein? Laissant à sa femme et à ses enfants l'exemple d'un martyr absolument héroïque, il meurt le 22 mai 1862, après 8 mois et demi de prison. En voici un autre. Pour avoir refusé de marcher sur une croix, Joseph Tuck, un jeune homme de 19 ans, écoutez bien, est décapité au même endroit le 1er juin 1862. Et Dominique Nin, humble cultivateur de 21 ans seulement, subit le même sort à Antrim le lendemain, le 2 juin 1862. Vous avez entendu? 19 ans, 21 ans. Paul Dung, lui, c'est un notable. Il est arrêté, lui aussi, pour avoir refusé de fouler aux pieds une croix, un crucifix, quoi. Il est battu à plusieurs reprises avec une telle violence qu'il a le corps couvert de plaies. On veut lui graver sur la joue, selon les prescriptions de l'empereur Tuduc, les mots « fausse religion ». Il s'y oppose. Il en est puni par la privation de nourriture. Mais un jour, le mandarin voit qu'il s'est fait inscrire sur la joue par un chrétien prisonnier « vraie religion ». Il faut avoir du caractère, du courage, il faut être audacieux. Il a fait inscrire sur sa joue « vraie religion » alors que eux, ils veulent mettre « fausse religion ». Quel courage! Et cette audace lui vaut d'être condamné à mort et exécuté le 3 juin, le lendemain, 1862. Voici maintenant des pêcheurs, oui, des pêcheurs. De simples pêcheurs, de bons pères de famille. Des habitants de Dongtan, un autre Dominique Toai, encore un autre Dominique Huen, qui sont arrêtés tout simplement parce qu'ils sont chrétiens. Ils sont brûlés vifs le 5 juin, voyez-vous, 2 jours plus tard. 1862, oui, des pères de famille, des pêcheurs. Le lendemain, 2 autres pêcheurs de Dongfu, Pierre Dong et Pierre Huen, et un cultivateur de Doan Trung, Vincent Duong. Quel beau prénom, Vincent, hein? Duong. Eh bien, tous 3, ils endurent le même supplice, ils sont brûlés vifs. J'espère que je ne vous accable pas trop, mais j'espère que vous méditez sur notre courage à nous, Québécois. Dans ces moments où l'Occident est assailli par l'athéisme, l'agnosticisme, le paganisme, le matérialisme, la sexualité, le pouvoir, l'imbécilité, où est notre foi? Sommes-nous aussi courageux que ces 5 riches agriculteurs, Dominique Nguyen et Dominique Ni, de Ngokku, Dominique Mao, Vincent et André Tuong? Tous les 5 sont arrêtés ensemble et enfermés dans la même prison. Ils y passent la plus grande partie de leur temps en prière. Le 15 juin, ils refusent encore une fois de piétiner la croix. Le juge les fait exposer immobiles au soleil. Le 13 juin 1862, le juge essaie de nouveau par des promesses, des flatteries et des menaces. Écoutez bien ce que lui dit Dominique Mao, le même nom que Mao Tse-tung, M-A-O. Il l'interrompt, le juge, puis lui dit: écoutez bien ça, c'est de toute beauté, dans la bouche d'un jeune homme, d'un marchand, c'est-à-dire un agriculteur qui a, qui est à l'aise, hein, et qui vend sans doute les produits de sa ferme. Pourquoi nous tentez-vous ainsi? Vous nous prenez peut-être pour des enfants qui se laisseraient convaincre d'offenser Dieu par crainte des souffrances. Pourquoi nous tentez-vous ainsi? Vous nous prenez peut-être pour des enfants qui se laisseraient convaincre d'offenser Dieu par crainte des souffrances. Alors condamnés à mort tous les cinq, ils sont décapités le jour même. Je termine le récit de ces martyrs admirables. C'est le lendemain, 17 juin 1862. Un chrétien de 60 ans, cette fois-ci, Pierre Da, D.A., est brûlé vif à Qualines, où il a été exilé. Beaucoup d'autres chrétiens sont massacrés à cette époque. Dans le vicariat du Tonkin central, je vous rappelle, c'est au Vietnam Nord, lui, ce vicariat extraordinaire, plein de saints, qui va par la suite montrer une extraordinaire vitalité chrétienne. Quand vous voyez à l'église ou dans la rue, ou parfois dans des restaurants, vietnamien où il y a une croix, il y a même parfois le portrait du pape. Dites-vous que ces Québécois, d'origine vietnamienne, sont des descendants dans la foi de ces gens admirables, de ces gens extraordinaires. Je voudrais vous raconter maintenant le récit du bienheureux Ignace Mangin, un Français, et ses 55 compagnons martyrs en 1900. C'est absolument phénoménal encore. Hein? Peut-être qu'avant de lire ça, je devrais vous rapporter ce que saint Cyprien dit aux martyrs et aux confesseurs de Jésus-Christ. C'est une lettre qui date du début de l'Église. Il remercie les victimes de la persécution. Et il leur dit, je déborde de joie et de reconnaissance, frères si courageux, si heureux, en pensant à votre foi et à votre courage, qui font la gloire de notre mère l'Église, déjà glorieuse pour votre foi confessée sans faiblesse, dont la condamnation a fait des proscrits des confesseurs du Christ. Pourtant, plus cette récente confession fut courageuse dans l'épreuve, plus elle est éclatante et belle dans l'honneur. Grand fut le combat, grande aussi la gloire des combattants. Vous n'avez pas hésité devant la lutte par peur des tortures, mais les tortures vous ont appelé à la lutte. Vous avez marché fort et inébranlable à la grande bataille décisive, toujours prêt à payer de votre personne. Parmi vous, je le sais, certains sont déjà couronnés, et d'autres touchent à la couronne du vainqueur, mais tout entière, la troupe glorieuse que la prison a enfermée est animée d'un courage égal et aussi ardent au combat, comme doivent l'être dans le camp de Dieu les soldats du Christ, afin que la fermeté incorruptible de leur foi ne soit ni séduite par la flatterie, ni effrayée par les menaces, ni vaincue par les supplices et les tortures, car celui qui est en nous, il s'agit évidemment du Christ, présent son Église, mais particulièrement ses martyrs, car celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans ce monde. Il parle du démon. Et la condamnation ici-bas est moins capable de nous abattre que ne l'est de nous tenir debout la protection divine. La preuve en est dans le combat glorieux de nos frères, qui, devenus les modèles de tous pour vaincre les tortures, ont donné l'exemple du courage et de la foi en livrant bataille jusqu'à bataille gagnée. C'était un texte de Saint Cyprien, au tout début de l'Église. Au martyr et au confesseur de Jésus-Christ notre Seigneur, il l'adressait en disant « Salut éternel en Dieu le Père ». Si vous voulez la retracer, c'est sa 10e lettre à Saint Cyprien. Ce sont des remerciements aux victimes de la persécution. Je voudrais maintenant vous parler du bienheureux Ignace Mangin et de ses 55 compagnons, martyrs en 1900, comme je vous ai dit tout à l'heure. L'impératrice Tzu Hi en Chine était vraiment une incapable. Elle a songé à redresser la politique chinoise en recourant au service de l'association de bandits que formaient les boxeurs. Il y en a été un peu question hier, alors que je vous ai parlé de Vincent Leb, L-E-2-B-E, Vincent Leb, l'un des plus grands personnages de la Chine, l'apôtre de la Chine, ce flamand belge qui s'est fait chinois. Longtemps, les boxeurs avaient été justement combattus par le gouvernement. Mais quand cette impératrice Tzu Hi leur a fait comprendre qu'à défaut d'approbation officielle, elle les laisserait agir comme ils le voudraient, bien, ils n'imaginent pas d'autre moyen pour libérer la Chine, eux autres, des étrangers, que de déchaîner une véritable guerre civile avec pillage, incendie et meurtre, en particulier contre tous ces étrangers et particulièrement les catholiques. Certains vice-rois sont conscients de l'absurdité de la méthode, alors pourchassent les boxeurs, et ces Chinois-là, comme des bandits d'ailleurs, et d'autres, surtout dans les provinces voisines de Pékin, dans le nord, suivent les directives de l'impératrice Tzu Hi et vont jusqu'à accorder aux boxeurs l'appui des troupes régulières. Alors, dès 1898, il y a 100 ans, les chrétiens sentent les effets de la haine des boxeurs qui les considèrent comme des complices, des étrangers, des exploiteurs. Ils comprennent vite qu'ils ne peuvent espérer aucune protection de la part des autorités, les chrétiens. Et ils s'organisent eux-mêmes en créant des villages fortifiés qui pourront leur servir de refuge en cas de danger. Mais vous verrez que ça ne servira à rien finalement. En 1900, deux ans plus tard, la menace se précise. Alors des maisons sont incendiées. L'assassinat de deux missionnaires le 19 juin 1900 marque le début de la persécution sanglante dans les missions des Jésuites. C'est dans la petite chapelle de Ouï. Ça s'écrit drôlement. O-U, trait d'union, Y, tout simplement. Donc, dans la petite chapelle de Ouï, que c'est là que périssent les pères Rémi Isoré et Modeste Andlauer. Le premier était né à Bambeck, au diocèse de Cambrai, le 22 janvier 1852, en France. Le second, à Rochem, au diocèse de Strasbourg, le 22 mai 1847. Ils avaient donc 48 et 53 ans, ces deux jésuites. La mort des deux martyrs hâte la fuite des chrétiens vers le village fortifié de Chukyaho. Le père Mangin, qui, depuis 1897, est chargé de la section de Kincheu, qui comprend les deux chrétientés, là, de Kincheu puis de Chukyaho, organise la résistance. C'est le dernier d'une famille de 11 enfants, ce Léon Ignace Mangin. Il est né le 31 juillet 1857 à Verny, c'est le chef-lieu de canton au sud de Metz, où son père exerce depuis 6 ans là, les fonctions de juge de paix. Il fait donc ses études élémentaires au pensionnat dirigé par les frères des écoles chrétiennes à Beauregard, près de Thionville. Puis en 1867, son père est transféré à Sedan et Léon Ignace est placé au collège de Saint-Clément de Metz, dirigé par les Jésuites. Ils en sont expulsés par les Allemands en 1872, dans la guerre franco-allemande. Léon Ignace les suit, les Jésuites, et passe 3 ans dans leur collège à Amiens. C'est un garçon joyeux. Puis il est dynamique en plus de ça. Il est très aimé par ses camarades, et qui ne sont pas plus surpris quand ils le voient entrer à 18 ans, le 5 novembre 1875, au noviciat des Jésuites à Saint-Acheul, près d'Amiens. Alors, ces 2 ans de noviciat et ces 4 ans d'études littéraires et philosophiques qu'il achève à Louvain sont sans histoire. Bon, le 2 novembre 1881, il est nommé professeur d'éléments latins au Collège Saint-Gervais de Liège, en Belgique. Il a eu un moment le désir de partir en mission, mais il s'intéresse à sa classe. Il n'y pense plus. Ces jeunes enfants d'environ 11 ans, 12 ans, le fascinent. Et quand, en juin 1882, son provincial lui offre brusquement d'être envoyé en Chine, il est un peu surpris. Il a 25 ans. Il est abasourdi même. Puis il accepte, car c'est un jésuite, et un jésuite, ça obéit, en principe. Et après avoir passé 15 jours dans sa famille, il s'embarque à Marseille. Le 17 septembre 1882, il arrive à Tientsin, toujours dans le nord, c'est la même ville où était Vincent Leb hier, Tientsin. Il arrive donc à Tientsin 6 semaines plus tard. Mais c'est pas la même époque, ils se sont pas connus. Et là, pendant 4 ans, il étudie la théologie et le chinois, puis il est ordonné prêtre le 31 juillet 1886, le jour de ses 29 ans. Son premier poste est le district de Kucheng, dans la mission de Chili. Il s'y révèle homme de gouvernement. C'est un jésuite calme, ferme, d'une gaieté communicative aussi. À 33 ans après son 3e an, comme on dit chez les jésuites, il est placé en 1890 à la tête de la section de Ho-Kien-Fu en qualité de ministre. C'est le terme qu'on utilise aussi chez les jésuites. Cette fonction lui impose de veiller aux intérêts de 20 000 chrétiens du district qu'il doit défendre devant les fonctionnaires civils. Il s'est su, bien que païen, ne tarde pas à apprécier son amabilité, son savoir-faire. Et quant à lui, bien, il regrette d'être absorbé par les soucis d'administration au point de ne pas être capable de disposer de bons moments, là, pour le ministère des Arts. Et s'il accepte cette situation, bien, il est néanmoins très satisfait quand, à la fin de 1897, il est chargé de la section de Kincheu, qui comprend cette chrétienté et celle de Chukiao. Je donne les noms parce qu'il y a des Chinois qui m'écoutent. Il y a des gens qui connaissent la Chine. Ne soyez pas trop effrayés si je vous donne tous ces noms-là. J'espère que je les prononce assez bien. Alors, ce village est fortifié en vue des mauvais jours qu'on sent venir. Et quand il a appris la mort de ses 2 confrères, le père Mangin s'y réfugie, puis il invite à venir le rejoindre son confrère voisin, le père Paul Den, prêtre de la Compagnie de Jésus, qui est né à Lille le 1er avril 1847. Alors, Chukiao abrite bientôt plus de 3000 chrétiens. Là, le père Mangin, qui sait que le nord de son district a déjà été ravagé, pense bien que le village ne tardera pas à être attaqué. Là, les boxeurs, c'est comme ça qu'on les appelle, les boxeurs ou les boxers, si vous préférez, ça s'appelle de 2 façons, apparaissent le 14 juillet. Et là, ils sont repoussés. Leurs attaques des 3 jours suivants sont de nouveaux échecs. Mais le 20 juillet, là, ils reviennent, appuyés par des troupes régulières. Et vers 7 heures du matin, ils forcent la défense. Le drame survient. Ils entrent dans le village où ils massacrent tous ceux qu'ils rencontrent dans les rues. Plus 1 millier de personnes se sont réfugiées dans l'église. Alors le père Mangin et le père Den se sont mis devant l'autel pour encourager et réconforter leurs fidèles terrorisés. Là, les boxeurs arrivent. Ils forcent la porte, puis ils crient « Sortez, et vous ne serez pas tués. » Alors le père Mangin, qui ne veut pas voir son troupeau se disperser, répond en brandissant un crucifix « Restez ici, restez ici !» Un peu plus tôt, un peu plus tard, qu'importe, dans quelques instants, nous nous reverrons tous au ciel. » Et là, le père Denne, toujours un autre jésuite, hein, entraîne la foule. Il récite le Confiteor, le je confesse à Dieu. Puis l'acte de contrition. Puis le père Mangin donne l'absolution générale. Alors les boxeurs impatientés se mettent à tirer au hasard. Marie Chu Ou Che veut protéger de son corps le père Mangin, puis elle tombe frappée d'une balle. Déjà blessé, le père Denne, 50 ans, s'agenouille devant le père Mangin pour recevoir une dernière absolution. Un coup de feu l'atteint en pleine poitrine. Cependant, d'autres boxeurs ont mis le feu au toit de l'église. C'est fait de nattes de roseau, hein. Et l'incendie se répand très vite. Les vêtements du père Mangin, qui n'a que 40 ans, ont déjà pris feu quand une rafale de balles le couche au pied de l'autel. À midi, le toit de l'église s'effondre sur les chrétiens carbonisés et l'incendie achève de consumer leur corps. À cette masse anonyme de martyrs, il faut ajouter ceux que les boxeurs découvrent dans les rues, dans les maisons, dans le voisinage. Imaginez que le procès de béatification a retenu 56 noms parmi cette foule immense. C'est ceux des personnes sur lesquelles les témoins ont pu transmettre quelques détails. Je vous en donne quelques-uns. Pierre Chu Se Sin est invité à abandonner le christianisme. Il répond qu'il ne peut renier le Créateur du monde. On lui coupe la tête. Jean-Baptiste Chu Hu Chu, lui aussi, fidèle disciple du père Mangin, est tué à coups de hache. Et Marie-Fou s'est réfugiée chez des parents païens. Elle est livrée au bourreau qui la massacre. Barbe, il y a une sainte Barbe. Barbe Tu Lien Che essaie de s'enfuir dans la nuit, mais elle tombe entre les mains des boxeurs qui la mettent en pièces. Et voici le tour épouvantable de Joseph Ma Tien Chun, un médecin. Un catéchiste. Il a eu la douleur de voir les membres de sa famille apostasier, mais lui, il reste inébranlable. Il ne veut pas renier le Christ. Il dit, « Il n'est pas question pour moi de renoncer à ma religion. Je crois fermement en Dieu. Tuez-moi si vous voulez, je mourrai volontiers. » Quel courage chez ce médecin. Ce bienheureux médecin pourrait être patron de bien des médecins ici. Joseph Ma Tien Chun. Quatre jeunes orphelines de l'hospice de Wang Lakia se présentent au bourreau en se donnant la main. Elles préfèrent mourir plutôt que de perdre l'honneur. Elles s'appellent Lucy Wang Chen, Marie Fun Kun, Marie Tiu et Marie Chen Su. Une Lucie et trois Marie. Et voici une autre Marie. C'est la mère d'un jésuite, imaginez. Marie Tu Chao She. S'est d'abord enfuie, mais elle revient présenter son cou au glaive pour ne pas trahir le Christ, mère d'un jésuite. Et encore une autre Marie, Marie Tu Feng Qiu et sa fille Marie Tien Che, se sont cachées dans les roseaux. Elles en sont chassées par les boxeurs à coups de fusil puis massacrées à cause de leur foi catholique. Et Madeleine est encore vivante quand elle est jetée dans un tombeau. Il y a aussi les deux frères Raymond et Pierre Lituan qui sont arrêtés. Le premier est conduit au temple et semé d'adorer les idoles, mais comme il refuse, il est, comme son frère, cruellement torturé jusqu'à la mort. Puis voici deux autres frères, Pierre et Jean-Baptiste Chaoming, qui sont pris alors qu'ils essaient de secourir des femmes et des enfants qui fuient affolés. Ils sont massacrés eux aussi. Oh mon Dieu! Pierre Wang Chulung est conduit devant les idoles, et comme il persiste à proclamer sa foi, il est suspendu à un pieu, un poteau, par les cheveux. Sous son poids, la peau de son crâne se déchire et il tombe par terre en répétant que rien ne pourra le séparer du Christ. Quelle foi au Christ, ces Chinois? Avons-nous, nous, la foi? sommes-nous capables d'affronter ce qui nous assaille de tous côtés? J'espère que ces récits terribles vous touchent au cœur. Ils vous donnent du courage. Ils vous donnent le goût d'être encore toujours plus plein d'amour pour le Christ. À l'exemple de ces Chinois, admirables, je pense à Zhang ou Wen Yin. Ça se passe vers 1900. Catéchiste à Tongkéu, il a la tête tranchée. Et Chang Wailu, encore catéchumène, imaginez, il n'a pas de prénom catholique ou chrétien. Il est loin d'écouter ceux qui lui suivent de déclarer qu'il n'est pas baptisé. Puis il s'écrit publiquement, « Je suis chrétien ». Qu'est-ce qui lui arrive? Il est baptisé dans son sang. C'est ce qu'on appelle le baptême de sang. On apprenait ça quand j'étais jeune. On apprenait ça à l'école. Puis voici Marc Ki Tianxiang. Il a, depuis 30 ans, l'interdiction de s'approcher de l'Eucharistie. Pourquoi? Parce qu'il n'arrivait pas à renoncer à l'opium, à la drogue. Alors, il ne cesse pourtant de prier Dieu, de lui donner la grâce d'une bonne mort. Appelé en jugement, il affirme courageusement sa foi à cet homme qui n'a pas communié depuis 30 ans et qui est presque toujours drogué par l'opium. Et il lave sa faiblesse, son péché dans son sang. Imaginez, il est béatifié. Pourquoi ce Marc Ki Tianxiang ne serait pas patron des drogués? Pourquoi pas? Le bienheureux Marc Ki Tianxiang. Il y a aussi An Xin Che, Marie Nan Kou Che, Nan Xiao Che et Marie Nan, dit Ling Hoa, qui ne se laissent pas convaincre de passer à l'impiété. Elles sont cruellement frappées jusqu'à la mort. Que de courage. Il y a Paul Yu Xin Tei, qui a 79 ans. Il habite Lang Tsikyu, d'où tous les chrétiens sont partis, sont enfuis. Il s'habille de neuf, il prend son chapelet, son livre de prière. Et quand il voit les bourreaux, il les salue à la manière chrétienne. Je m'adresse à tous ceux qui ont 79 ans, 80 ans, et qui sentent autour d'eux qu'il n'y a plus de chrétiens, que leurs enfants ont perdu la foi, leurs petits-enfants ne sont presque pas baptisés. Ils se sentent seuls. Tous les chrétiens sont partis. Et le voilà, lui, 79 ans, qui s'habille de neuf, prend son chapelet, son livre de prière. Et quand les bourreaux arrivent, il les salue à la manière chrétienne. À leur question, « Êtes-vous chrétien ?» il répond, « Nous le sommes depuis 5 générations. » Il reçoit aussitôt un violent coup de sabre, et c'en est fait. D'un seul coup, Dieu l'a reçu contre son cœur. Encore catéchumène, un autre qui n'est pas baptisé, Lang Yang Che. Il n'y a pas de prénom chrétien, comme vous voyez. Elle se déclare chrétienne. Elle se déclare chrétienne. Et après avoir reçu plusieurs coups, elle est jetée avec son fils Paul Lang, lui qui est catholique, il est baptisé, dans sa maison, transformée en brasier. Il brûle là. Elisabeth et son fils Simon Tin de Pei Lao montrent le même courage. C'est la cruauté de leur tortionnaire qui est terrible. La mère et ce fils sont unis dans la mort, comme ils l'avaient été dans la vie. Toute une famille de Ma Kia Chuang est prise. Il y a Joseph Wang Soumei, Lucie Wang Che, et puis Anne Wang et André Wang, c'est donc des Wang, comme vous voyez. Anne, qui a 14 ans, déclare, 14 ans, 14 ans, j'attends ici la volonté de Dieu, et bien volontiers je mourrai martyr. Un coup de sabre lui tranche la tête. Un bouddhiste veut sauver le petit André qui n'a que 9 ans. Mais Lucie, sa mère, s'interpose. Je suis chrétienne. Alors comment mon fils pourrait-il cesser de l'être? Tuez-le d'abord et moi ensuite. Il est donc égorgé d'un coup de couteau et elle décapitée. Ça rappelle des héros de l'Ancien Testament, des Maccabées. à Yufang Chaokia, Marie Chaokuoche et ses filles Rose et Marie se cachent dans un puits par peur de la brutalité des soldats. Elles en sont tirées, massacrées. Puis c'est le tour d'un marchand renommé pour sa probité, Joseph Yuan Keng Yin, qui devient plus célèbre encore par son martyre. Et puis, Paul Ke Ting Chu est le chef des catholiques de Si Xiao Tun. Il s'écrie que mon corps périsse plutôt que mon âme. La maîtresse d'école, Rose Wang Wei, est dénoncée. Les boxeurs la questionnent. Tu es chrétienne? Oui. Veux-tu apostasier? Non. On lui taillade les joues avec un couteau. Elle reste ferme. On lui coupe une oreille. Non, répète-t-elle, je ne veux pas apostasier. Je suis enfant de Dieu. Je ne le renierai pas. Et elle est tuée à coups de sabre et jetée dans le canal. C'est une maîtresse d'école, c'est-à-dire une institutrice, un professeur à l'école. Je rappelle son prénom, Rose Wang Hui. Bienheureuse, elle pourrait être patronne des institutrices qui ont des problèmes. Le soir du 20 juillet 1900, les boxeurs coupent les têtes du père Mangin et du père Den et les suspendent aux portes de Qingqiu. Et pendant 15 mois, le village de Chukiao reste désert. Les ruines de l'église gardent les restes des chrétiens brûlés avec elles. Et l'enquête commence dès 1901 au sein de l'église catholique. Et ça aboutit à la béatification de 56 martyrs le 17 avril 1955. Ces martyrs nous sont offerts. Ce sont des exemples à suivre quand nous sommes tentés de trahir notre foi. Et c'est dommage qu'on les connaisse si peu. Heureusement, il y a Radio Ville-Marie qui est là. Et n'oubliez pas que grâce à Radio Ville-Marie, nous pouvons savoir qu'ils existent, qu'ils sont là au ciel et qu'ils peuvent nous imprégner de leur foi et de leur courage. C'est ce que j'espère. Ô Père, je vous le demande. Par l'intercession de votre Fils et de tous ces bienheureux martyrs, veuillez nous donner l'esprit de foi de ces admirables Vietnamiens du Tonkin et ces Chinois.